Cause à effet, le magazine de l'environnement.
Fort de ses 209 millions d'habitants et présenté comme la ferme du monde, le Brésil est le cinquième pays de la planète par sa taille de 8,5 millions de kilomètres carrés. Il est aussi celui qui abrite une grande partie de la forêt amazonienne, ce poumon vert vital à la survie des hommes et trésor de la biodiversité. Mais le Brésil de Jair Bolsonaro, élu fin 2018, a désormais l'image d'un pays climato-sceptique, loin du temps du sommet de la Terre organisé à Rio en 1992. Les ONG environnementalistes s'inquiètent et les peuples indigènes multiplient leurs appels à sauver la Terre-mère, car ceux que l'on appelle les gardiens de la nature subissent de plein fouet la mondialisation et la politique économique en vigueur. La presse relaye les cas de terres convoitées, de richesses accaparées, de déforestation, d'expropriation et l'acculturation aussi qui touche les tribus indiennes. À l'âge de 87 ans, le cacique Raoni est actuellement en tournée en Europe pour la 9e fois de sa vie. Le Brésil de Bolsonaro est-il compatible avec les enjeux environnementaux et la sauvegarde des peuples autochtones? Quel rôle peuvent jouer ces derniers dans la protection de la planète et comptent-ils à nous apprendre afin de réduire les conséquences du réchauffement climatique? Nous en parlons aujourd'hui avec Saba Ramani. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et anthropologue, auteur du livre Paroles des peuples racines, un livre paru chez Actes Sud. À vos côtés, Martine Droulers. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géographe, directrice de recherche émérite au CNRS et auteur notamment, donc avec Céline Brogio, du livre Le Brésil, un que sais-je, paru au PUF, aux Presses universitaires de France. Et à mes côtés, Simon Roger, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef des pages Planète Science du journal Le Monde et vous avez largement couvert toutes ces questions, bien évidemment. On en parle avec vous. Et puis en seconde partie d'émission, c'est Marie Sabot que nous recevrons pour son festival musical Wheel of Green qui se tiendra les 1er et 2 juin prochains dans le bois de Vincennes en partenariat avec Le Monde, des concerts, des rencontres, des conférences, le temps d'un week-end éco-responsable. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission, toujours en partenariat avec la rédaction des pages Planète Science du Monde, préparée par Anaï Morales, avec Anne Gouzon, Valérie Arnoul, Caroline Chausset, Vanessa Chang, réalisée par Alexandra Malka, avec aujourd'hui à la technique YouTube Diego Ac Lopez.
Dossier très sensible, celui des réserves indigènes. Ces autochtones vivent sur un territoire protégé en lisière de Brasilia. Aux yeux de Jair Bolsonaro, ces Indiens, comme toutes les autres tribus au Brésil, ont trop de terres. Il va donc tout faire pour les empêcher d'en avoir plus. Ces hommes, dont la réserve est déjà grignotée par la ville, se sentent donc particulièrement menacés.
Donc on... Les habitations sont vraiment juste à côté de votre réserve, en fait.
Ils disent qu'on ne produit pas assez et que l'on freine le développement économique du pays.
Moi, j'ai très peur pour nous. Ici, nous sommes forts parce que nous avons gardé nos terres. Mais là, nous courons le risque de tout perdre.
Eh oui, le Brésil, l'Amazonie, le poumon vert de la Terre et puis ces peuples autochtones, on les entendait dans ce reportage diffusé sur France 2 le 22 janvier dernier. Ces peuples qui donnent pour beaucoup l'image d'un autre temps, reculé même pour certains. Et puis pour d'autres, eh bien, ils représentent un appel aussi à la raison. Alors que représentent-ils en nombre aujourd'hui, Saba Ramani?
Ils sont 370 millions de peuples, qui représentent à peu près 22% de la surface du globe. Et surtout, ce qui est important à dire, c'est que sur leur territoire, il y a 80% de la biodiversité mondiale. Donc c'est vrai que cette appellation de gardien de mère nature est très juste, parce que ça fait des milliers d'années qu'il la préserve avec vraiment beaucoup d'attention et durabilité. Ce n'est pas l'Occident qui a inventé le développement durable. Je pense qu'on a vraiment beaucoup à s'inspirer de leur manière de voir et de ressentir la nature et comment ils en prennent soin.
Martine Droulers, je disais cette image, c'est vrai que pour beaucoup, pour les Occidentaux, comme on dit, finalement, ils représentent un temps reculé, arriéré. Vous en pensez quoi?
Les Amérindiens au Brésil sont assez peu nombreux, enfin, par rapport aux 370 millions. Ils atteignent à peine le million. Et en Amazonie, encore moins. Et dans les terres qui leur sont réservées, qu'on appelle les terres indigènes, ils sont 400 000 à peu près. Et là, sous, pas dire la tutelle, mais sous l'organisation d'une Fondation nationale de l'Indien, qui a beaucoup de mal à fonctionner depuis longtemps, et qui était rattaché au ministère de l'Intérieur, puis au ministère de la Justice, et maintenant, sous Bolsonaro, au ministère de l'Agriculture. Donc, aux grandes dames de l'organisation de la préservation de ces terres indigènes, parce que, évidemment, on pense bien que l'agriculture veut grignoter ces terres indigènes. Seulement, c'est quand même la Constitution qui, de 88, qui a réautorisé, enfin, réaffirmé le droit des Indiens sur leurs terres, et 22% de l'Amazonie est en terre indigène, bien démarquée. Alors, on dit aussi qu'il y a des problèmes de démarcation, parce que la procédure pour arriver à la titularisation complète des terres est longue et difficile, passe par 5 stades, et donc ça prend un certain temps, et certaines terres n'ont pas été homologuées jusqu'au bout. Et puis, des nouvelles terres, même très petites, comme celle de Brasilia dont on a parlé, demandent à être à leur tour homologués. Donc, c'est un travail qui ne finit jamais.
C'est une guerre qui remonte à combien de temps maintenant ?
Alors, les Brésiliens ont commencé à s'occuper de la protection des Indiens au début du XXe siècle, avec le maréchal Rondon, qui était une grande figure de cette rencontre avec les Indiens. Mais ça a pris un certain temps pour construire ces institutions et les faire fonctionner, former des anthropologues, etc. Et les Indiens ont souffert d'une... Ils ont été exterminés déjà dans les siècles sous la colonisation portugaise, bien sûr, et puis plus récemment par l'ouverture des routes pour les groupes qui s'étaient réfugiés au milieu de la forêt. Mais depuis les années 50, les Indiens sont beaucoup plus protégés et la démographie repart à la hausse.
Simon Roger.
Cette structure que vous venez d'évoquer, donc, qui s'appelle la FUNAI, est précisément l'une des premières cibles de Jair Bolsonaro quand il a pris le pouvoir en janvier. Donc ça permet aussi de replacer cette histoire très longue et durable, comme l'évoquait Sabaramani, dans un contexte politique brésilien qui est très particulier. Donc là, le moment où on se situe aujourd'hui est au croisement des questions effectivement de la démarcation des terres, la question de l'exploitation des ressources nombreuses, des ressources minières notamment de ces territoires en Amazonie et ailleurs, mais là on parle surtout d'Amazonie, et aussi ce contexte politique nouveau. Et si on parle, et on parlera... J'imagine ensuite de la venue du cacique Raoni en France. C'est précisément parce qu'on est dans un moment politique qui est très, très, très particulier et très tendu pour ces populations autochtones.
Avec un ministre tout pro agro-business, on en parlera également. Je vous propose d'écouter tout de suite, justement, la voix de Bolsonaro, son Brésil et l'environnement. Je rappelle qu'il a été élu le 28 octobre dernier avec 55% des votes valides, soit 58 millions de voix, en sachant qu'il y a eu 40 millions de votes blancs et d'abstention. Voici ce qu'il disait le 29 novembre 2018 dans un reportage diffusé sur France Culture.
J'ai demandé à mon futur ministre des Affaires étrangères de renoncer à accueillir cet événement ici au Brésil. Il y a un enjeu majeur dans cet accord, l'enjeu du triple A. Qu'est-ce que c'est le triple A ? C'est une grande bande qui englobe les Andes et l'océan Atlantique en passant par l'Amazone, une région de 136 millions d'hectares. Et le risque, c'est qu'on perde notre souveraineté dans cette région. En outre, les coûts de l'organisation de cette conférence seraient à mon avis assez exagérés compte tenu du déficit que nous avons déjà en ce moment.
Voilà, Bolsonaro qui précise qu'il ne souhaite pas organiser la COP 25, qui donc était prévue au Brésil et qui reste malgré tout dans l'accord de Paris. Mais c'est vrai que Sabaramani, ses propos inquiètent, on peut dire, par rapport aux enjeux environnementaux au Brésil.
D'autant que la menace sur les populations autochtones s'accentue depuis son élection et que les menaces directes d'atteinte à la vie des leaders autochtones est réelle. Il y a de plus en plus de leaders qui font parvenir à travers des associations le fait qu'ils sont directement menacés. Moi, j'ai eu des témoignages directs où il y a une cacique amérindienne qui était en France d'ailleurs le mois dernier, qui a été menacée deux fois de mort. C'est tout à fait sérieux et c'est d'autant plus inquiétant que Bolsonaro a autorisé il y a quelques semaines le port d'armes. Et donc là, c'est le Far West dans tous ces dangers, c'est-à-dire que les agriculteurs et les colons, les chercheurs d'or qui vont envahir les terres démarquées des Amérindiens pourront tuer en toute impunité.
Un pays, il faut le rappeler, donc le cinquième du monde, mais endetté, où la violence et la criminalité règnent. Simon Roger.
Un pays effectivement très violent, et je voulais juste revenir sur, effectivement, les propos de Bolsonaro sont aussi intéressants si on en fait une lecture un peu, j'allais dire, presque géopolitique. Bolsonaro, en donc considérant que le Brésil, qui pour des questions de rotation au niveau des Nations Unies devait rotation géographique, en tout cas régionale, devait donc accueillir cette nouvelle conférence climat, donc la COP25, et en refusant, il se met dans le camp de son voisin nord-américain, donc des États-Unis, qui est un autre pour le coup, donc Donald Trump, et en tout cas on parle pas des États-Unis dans son entier, mais du pouvoir et la Maison Blanche, et qui est un autre pays qui depuis quelques années maintenant bouge les lignes et se, alors je n'ai pas de climato-sceptique certes, mais en tout cas sur les questions climatiques, de réchauffement climatique, prend des positions à contre-courant de tout ce que dit la science, se met aussi à distance des négociations internationales, et donc là on a comme une sorte de d'alliance de États-Unis et Brésil, mais dans le mauvais sens du terme, contre ces considérations climatiques, et sachant que climat et biodiversité sont évidemment intimement liés.
Martine Droulers, un pays endetté estime dans ce cas-là, et c'est le cas du Brésil, hein, que la protection de l'environnement est un luxe, on imagine, et donc on multiplie les grands projets, comme les mines, les barrages hydroélectriques. C'était déjà le cas d'ailleurs du temps de Lula da Silva, hein, et puis aussi avec Dilma Rousseff. Mais ces zones, ces réserves, ces terres qui appartiennent aux Indiens sont aussi source d'appétit, parce qu'elles regorgent aussi de métaux rares. L'uranium, l'or, l'étain, le cuivre, les diamants, voilà, c'est alors, forcément ce qui se passe aussi pour ces populations.
Oui, je voudrais rappeler quand même que la politique de l'environnement, c'est une co-construction. C'est-à-dire que c'est, ça se fait, c'est un apprentissage aussi. Hein. La biodiversité, on a beaucoup d'inventaire à faire, on connaît pas bien les processus de régénération de la forêt, etc. Et la forêt elle-même est-elle aussi vierge que ce qu'on a dit? On pense qu'il y a des populations qui y habitaient là depuis très longtemps et qui ont déjà favorisé certaines concentrations d'arbres, etc. Donc, c'est un apprentissage et une co-construction. Et on peut dire que le Brésil, en 50 ans, si on veut faire un bilan, si on veut sortir de l'actualité, a beaucoup avancé en 50 ans sur ses politiques de protection de l'environnement, avec une politique de zonage qui est quand même assez extraordinaire. Alors, je ne vais pas dire que tous les zonages sont respectés, qu'il n'y a pas des invasions d'orpailleurs de certaines zones, etc. Mais quand on pense à la dimension de l'Amazonie, on voit la difficulté. Alors, heureusement, maintenant, il y a des images satellites, il y a des drones, il y a des... Parce que le Brésil avait mis au point un ministère de l'Environnement avec un bras opérationnel qui allait faire de la vérification sur le terrain. Mais vous imaginez bien le coût de telles opérations. Et la course à l'illégalité, elle s'est faite avec retard, quelquefois avec... Il y a toujours des interstices dans cette difficulté à formaliser. Alors, les lois existent,
oui, parce que dans les années 80 ou 90, on a vu le développement des aires protégées, des réserves naturelles, et puis il y a eu un code forestier qui a été renforcé aussi pour réduire le déboisement. Mais, avec l'époque de Dilma Rousseff notamment, le déboisement est reparti à la hausse, hein, c'est ça?
Il est reparti à la hausse récemment, tout à fait récemment, mais tout le long des gouvernements de Lula et de Dilma Rousseff, ça a été une baisse. Alors c'est encore trop, comme on dit, 5000 km² chaque année, c'est énorme encore, mais c'est sur la décroissance, sauf l'année dernière que c'est reparti un peu à la hausse. Mais c'est une politique qui touche alors à un autre aspect qui est très grave au Brésil et qu'il traîne comme un boulet depuis des années, c'est la politique foncière. Et on retrouve la titularisation des terres, évidemment, avec ce sujet. Les cadastres ne sont pas faits, en Amazonie surtout. Alors, ils ont essayé une procédure accélérée de cadastre qui s'appelle le cadastre environnemental rural, sur lequel ils avancent, mais qui prend du temps. On voit le temps que ça prend de faire un cadastre. Donc, toutes les terres ne sont pas titularisées, toutes les terres ne sont pas cadastrées. Il y a des outils de mesure, mais ça traîne.
Moi, je m'interroge aussi sur cette dimension de cadastre, de propriété terrienne qui est très tirée de l'histoire occidentale, parce que les populations autochtones ne raisonnent pas de la même manière du tout. Donc, comment se faire rencontrer ces deux visions de la terre, puisque la notion de propriété individuelle, bon, c'est vrai que la démarcation trouve une solution intermédiaire pour reconnaître collectivement une terre à un peuple, mais cette histoire de cadastre, c'est aussi un danger pour les populations locales amérindiennes, puisque si un colon agriculteur vient s'installer sur une terre et qui dit ben moi je l'exploite depuis 10 ans, et s'il y a des populations semi-nomades qui viennent tous les 3-4 ans, on va dire mais moi je suis là depuis 4 ans, à qui appartient la terre? Et ça c'est un scénario classique un peu partout dans le monde avec les peuples autochtones et des agriculteurs qui viennent s'installer sur leur territoire ancestraux.
Et puis il y a le lobby de l'agrobusiness, les élevages de bœuf, et là effectivement ces appétits bien évidemment pour exploiter ces terres, on imagine. Hein.
Oui, complètement. Là aussi, c'est une... il y avait des peuples amérindiens que j'avais pu rencontrer au Brésil qui me disaient, voilà, nous, on n'est pas dans une logique de prédation de la terre, de la relation à l'animal, que ce soit, qu'il soit de, dans l'élevage ou sauvage, de l'agriculture. On est dans le prélèvement et un prélèvement durable, puisqu'ils ont aussi, leur manière d'aborder la nature est aussi très spirituelle chez eux. C'est leur manière de voir les choses qui est complètement opposée à la vision matérialiste qu'on peut avoir aussi au sein du gouvernement. Donc, pour eux, il y a un cycle de vie, un cycle d'échange entre la nature et la consommation humaine, puisque nous faisons partie d'un tout. De cette nature est aussi humaine, elle est en échange constant entre le monde végétal, animal et minéral. Donc, ils disent, ben voilà, une fois que vous avez un jardin, si vous prélevez tout d'un coup, qu'est-ce qui va rester pour demain? Ils pensent énormément aux générations futures, à la transmission, puisqu'ils pensent à celles qui ont laissé, les ancêtres, et celles qui viennent. Donc ici, ils disent toujours, nous sommes que de passage, donc nous devons préserver ça, et la nature existe, a existé avant nous, elle existera après nous.
Une sensibilité animiste qui force aussi à l'humilité. Martine Droulers, ces peuples indigènes, ces gardiens et ces enfants de la terre-mère ont des choses à nous enseigner, selon vous?
Oui, bien sûr. Ils ont des choses à nous enseigner et ils ont une pratique de l'espace qui est hyper extensive. Alors, comme vous l'avez souligné au début, le Brésil est un grand pays, il a de la surface. Et donc, au fur et à mesure, on allait plus loin, on ouvrait des nouveaux espaces, etc. Sauf que maintenant, avec une politique de zonage, la frontière est fermée, comme on dit. Donc, le front pionnier se heurte à des zones interdites. Alors, évidemment, au début, c'était agriculture itinérante sur brûlis, on avançait. Bon. Maintenant, c'est beaucoup plus modernisé, mécanisé, on avance deux fois plus vite. Alors, tout dépend évidemment de quelle planète on veut. Si on veut une planète qui nourrit 10 milliards d'hommes, il faut faire de l'agriculture. Si on veut une planète qui est un sanctuaire, où on regarde la nature, on ne pourra pas faire vivre 10 milliards d'hommes. D'autant que les villes brésiliennes, je le rappelle, les villes brésiliennes où il y a beaucoup de violence, justement, sont des villes millionnaires qui consomment énormément. Je rappelle que 80% de la population brésilienne est en ville, donc sur des petits espaces.
Mais est-ce qu'on n'est pas aussi dans une logique de surconsommation?
Ah, peut-être aussi, oui, ça c'est sûr, donc, c'est une question de philosophie.
Ce que certains chercheurs et scientifiques disent, c'est que la consommation, aussi pour nourrir 10 millions de personnes, peut être revue où on peut consommer autrement. Vous faites référence à ça, Sabaramani, j'imagine. Fait, avant d'aller plus loin avec
mais
vous, je
propose... Mais un Brésil de 200 millions d'habitants quand même, pas un Brésil de moins de 1 million d'Amérindiens.
Oui. Et puis la question du réchauffement climatique aussi et de ce poumon vert. On va en parler dans un instant. Je propose d'écouter la voix du cacique Raoni. C'était sur France 2 le 13 mai dernier. Donc je rappelle qu'il est en tournée en ce moment en Europe.
Raoni, à l'automne de sa vie, repart en campagne contre la déforestation de l'Amazonie, poumon de la planète. À l'heure où le gouvernement Bolsonaro ne cache pas sa volonté d'exploiter la jungle au maximum.
Il faut protéger les limites de nos territoires. Avant, on pouvait chasser ici. Maintenant, les fermiers pénètrent illégalement sur nos terres et tuent notre gibier. Il y avait des sangliers, des cerfs. Et là, il n'y a plus rien. Il faut empêcher ces incursions sur nos terres.
Pour le populiste Jair Bolsonaro, ces Indiens qui vivent dans leurs réserves sont comparables à des animaux dans des zoos.
Ils nous comparent à des animaux, mais pour qui se prend-il ? On est des êtres humains, comme les Blancs. Et le président Bolsonaro doit comprendre. Si le Blanc continue à détruire l'Amazonie, le monde entier n'aura plus d'oxygène. Et on mourra tous. Les Indiens comme les Blancs.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Simon Roger, le cacique Raoni, vieux monsieur, 87 ans, je disais que c'était sa 9e tournée en Europe, c'est-à-dire que depuis les années 70-80, il porte la parole. On se souvient, pour ceux qui étaient nés à l'époque, au moins Sting, 1989, une tournée dans 17 pays, rencontre des présidents du Brésil, de France, le roi d'Espagne, le prince Charles, le prince Albert de Monaco, le pape Jean-Paul II, l'empereur du Japon, etc. Il y a eu beaucoup de mobilisation, mais aujourd'hui, il continue tenu une tournée parce que finalement on se pose la question, est-ce que ça sert à quelque chose?
Alors pour le coup, bah, je vais donner assez rapidement la parole à Sabah Ramini qui a mené l'enquête, qui connaît bien le sujet, qui a été d'ailleurs dans les territoires Kayapo il y a quelques temps et qui est l'objet donc d'un travail qui a été fait aussi avec Nicolas Boursier donc du journal Le Monde à Paris, puis la correspondante au Brésil Claire Gatinois.
Les articles, je précise, qu'on peut retrouver sur notre site et sur lemonde.fr d'ailleurs.
Ce que je voulais juste signaler, donc effectivement il y a cette tournée française et européenne donc depuis le 13 mai jusqu'à fin mai de Cassic Raoni. Donc Raoni, c'est ce personnage que vous avez sans doute vu ou entendu, on entend cette voix un peu chevrotante, mais on connaît aussi surtout ce personnage avec ce plateau labial qu'on retrouve aux conférences climat et dans d'autres occasions. Ce qui est intéressant, c'est que ça résonne tout à fait avec ce qu'on disait en début d'émission sur l'un des objectifs, et Sabah va vous en parler un peu plus, de cette tournée de Raoni, c'est notamment de réfléchir à cette question de la démarcation et d'arriver à financer les terres indiennes. Donc cette question des territoires et de la manière dont on les utilise ou dont ils sont l'objet de convoitises extérieures, elle est vraiment au cœur de cette tournée de Raoni en France et en Europe.
Sabah Ramani, c'est ce qu'il demande en fait, le cacique, au nom de tous les peuples qu'il représente. C'est vraiment cette démarcation des terres et puis protéger aussi ces populations, les aider à garder leur culture.
Oui, tout à fait, ça a toujours été le combat de Raoni. Sa priorité, c'est de sauver sa terre et son territoire, son peuple, sa culture. Il est très inquiet là-dessus et il n'est pas le seul. C'est vrai que c'est en Occident, on le connaît parce qu'en 89, avec la tournée de Sting, effectivement, ça l'a mis sous la lumière. Mais tous les caciques du Brésil s'accordent à dire que un Indien sans terre n'est plus un Indien. Donc à partir du moment où s'ils perdent leur terre, ils perdent leur culture. Donc c'est fondamental. Alors cette histoire de démarcation est fondamentale parce que c'est vrai qu'elle prend du temps. Ça coûte beaucoup d'argent et en même temps, on ne peut pas collecter tous les fonds pour tous les peuples. Parce que là, Raoni, ils ne demandent ça que pour leur territoire, ce qu'on appelle le territoire du Xingu, la réserve du Xingu, où il y a d'autres peuples que les Kayapo, où Cacique est parmi certains autres chefs indigènes, n'est pas le seul. Donc ça, on ne le sait pas trop souvent. Mais
un territoire énorme déjà, 184 000 km², près d'un tiers de la surface de la France.
De la France, effectivement. Donc, il milite pour ça, mais sa voix va au-delà, puisque à la COP21 à Paris en 2015, il a demandé à d'autres leaders autochtones de former une grande alliance des gardiens de Mère Nature, qui existe encore aujourd'hui. Et en 2017, à Brasilia, il a rassemblé plus de 200 représentants autochtones. J'ai eu la chance de participer à cet événement qui était organisé par l'Alliance. Et là, c'était vraiment intéressant parce que toutes les voix concordent vers la même priorité, sauver les terres, sauver la culture. Et à partir de ces deux principes, je pense que pour eux, c'est vital. Et ils nous disent, d'ailleurs, ils sont très très désireux de pouvoir s'adresser à l'Occident, et pas seulement les politiques, parce que c'est vrai que là, la tournée de Raoni rencontre le pape, il a rencontré Macron, il va rencontrer le prince Albert de Monaco, mais ils s'adressent aussi aux citoyens. Aux citoyens, que pouvons-nous faire? Quels sont nos moyens d'action? Et les peuples autochtones nous invitent à nous mobiliser en tant que aussi premiers consommateurs, puisqu'ils disent, voilà, s'il n'y a pas de production, s'il n'y a pas d'achat, s'il n'y a pas d'achat de la part des consommateurs,
oui,
il y aura moins de...
Notamment des bois qui viennent de l'Amazonie.
Voilà, du soja pour nourrir le bétail en Occident. Il y aura moins de production. Donc, ils nous demandent vraiment de créer des ponts avec eux pour pouvoir agir concrètement sur le terrain, puisqu'ils sont démunis, ils sont discriminés. Et c'est vrai que malgré toute la mobilisation des associations qui les soutiennent, c'est pas suffisant.
Martine Droulers.
Oui, enfin, on peut avoir ce discours-là, mais on peut aussi avoir un discours un peu plus optimiste en montrant plutôt les atouts, les acquis qu'ils ont obtenus depuis des dizaines d'années. Alors, régulièrement revient, si la déforestation augmente, régulièrement revient le terme la déforestation augmente. Mais on peut aussi voir que l'Amazonie était quand même une terre où peu de monde allait, peu connu, pas rattaché au Brésil. Et là, je reviens sur cette histoire de souveraineté que Bolsonaro a énoncé tout à fait au début de son discours et qui est une préoccupation des militaires depuis les années 70, quand ils ont ouvert l'Amazonie. Et effectivement, ils craignaient que les autres Amazonies péruviennes, colombiennes, vénézuéliennes ne contrôlent mieux leur Amazonie qu'eux. Et ça, c'était un problème de souveraineté. C'est dans ce but qu'a été faite la trans-amazonienne qui réunissait l'Atlantique au Pacifique, etc. Donc, ça revient. Donc, d'un côté, la protection des Indiens est une constante. Elle existe dans la politique brésilienne depuis longtemps, mais l'intégration de l'Amazonie au reste de la nation aussi.
Mais là, l'élection de Bolsonaro ne vous inquiète pas plus que ça, Martine Goulart ?
Si, elle est très inquiétante. Elle est très inquiétante. Enfin, moi, je suis plutôt optimiste et mon optimisme, je l'ai appris au Brésil. Alors, le Brésil a fait preuve souvent de créativité politique. Hein, n'oubliez pas, il a quand même eu un leader syndical qui est devenu président, un docteur de sociologie, une femme, administratrice, gérante, etc. Donc, il a eu des personnalités. Il s'avère que crise économique, mauvais choix sur le pétrole, etc., je ne vais pas revenir là-dessus, la grave crise qu'ils ont subie et la récession économique depuis 2015 fait que le Brésil est en crise. Quand on est en crise, on a des hommes politiques qui sont borderline. C'est un peu ce qu'on peut évaluer dans cette affaire.
Et dans ce cas-là, la préoccupation du développement durable, la préoccupation du réchauffement climatique n'est pas la priorité, c'est ça ? Parce que quand on parle de déboisement et de déforestation, forcément, on pense aussi au réchauffement climatique et on sait qu'il y a une conséquence directe selon les scientifiques.
Bien sûr. Et la protection de l'Amazonie fait partie justement de ce plan de lutte contre le réchauffement climatique, puisqu'il est important de maintenir l'évapotranspiration due à la grande forêt, etc.
Mais cette protection de l'Amazonie, aujourd'hui, avec l'élection de Bolsonaro, elle est vraiment plus que mise à mal, elle est en danger.
Elle est périodiquement en danger depuis 40 ans.
Oui, mais là, je pense que, en tout cas sur le terrain, puisque c'est ce qui remonte des populations, c'est qu'elle n'a jamais été autant en danger que depuis des centaines d'années. Et là, il y a une urgence, puisqu'il y a un réchauffement climatique. Ils nous disent qu'il est temps d'agir et d'agir ensemble avec eux, puisqu'ils savent très bien qu'au niveau du gouvernement national, ça n'agira pas. Sauf s'il y a une pression internationale. C'est pour ça que de faire entendre la voix des populations autochtones en dehors de leur pays d'origine est essentiel pour eux, parce qu'ils savent très bien que les gouvernements, eux, au contraire, souvent, leurs territoires sont une aubaine économique. Donc, ils sont expulsés ou ils sont menacés, discriminés. On les voit comme des sauvages, comme des arriérés. Et ça existe encore. Moi, ça fait 25 ans que je côtoie des populations autochtones dans le monde. Et en fonction de l'acculturation des uns et des autres, je pense que là, on est vraiment à un point critique. Mais je suis très optimiste, mais cet optimisme doit être réaliste. Il pourra se faire qu'avec le soutien des populations européennes et occidentales.
Simon Roger.
Je ne sais pas s'il faut être modérément ou exagérément optimiste. J'essaie juste de faire un peu l'état des lieux de ce que je lis, de ce que je vois. En l'occurrence, je pense notamment à un appel qu'on avait relayé dans Le Monde. Ça aurait pu être un autre journal. Et il se trouve que c'est Le Monde qui l'a relayé. Au moment des 100 jours de Bolsonaro, qui est un appel de caciques et de chefs autochtones donc du Brésil, d'Amazonie, mais pas seulement, de pays voisins, mais aussi d'ailleurs d'Afrique, d'Asie, etc., qui était un appel en éclairant, en mettant le focus sur la politique de Bolsonaro, en disant, alors je crois que les termes étaient particulièrement forts, on est à l'aube d'une apocalypse. En tout cas, c'était très très menaçant ou très inquiétant dans les propos que tenaient ces caciques. Et je voulais juste signaler que le fait que Raoni soit là, et Raoni, d'ailleurs en tant que tel, est un personnage très complexe, avec des amitiés assez obscures parfois, donc je pense qu'on n'est pas là non plus ni pour dire que Raoni est le sauveur des peuples amazoniens. Il prêche peut-être pour sa paroisse, mais pas plus que ça, et avec certaines limites. Simplement, je crois que ce qu'on voit, c'est que Sabaramani parlait tout à l'heure de prédation. Je sais aussi qu'au Brésil, particulièrement, pas mal de militants environnementalistes, de journalistes aussi qui travaillent là-dessus, sont parfois menacés. Ça fait partie des pays qui sont les plus violents en termes de menaces ou aussi de personnes abattues. Donc je crois qu'il y a quand même une tension qui est forte, même si sans doute, je veux bien vous croire que le Brésil a progressé là-dessus, mais il y a une tension forte sur les terres indiennes en particulier, et tous les enjeux économiques que recèlent ces territoires-là.
Nous allons en reparler dans un instant. Je vous propose d'écouter le choix musical de Sabaramani, Marvin Gaye. Vous avez choisi quelle chanson ?
Ecology. Merci.
Au-delà du fait que le titre de l'album, c'est l'écologie, est-ce qu'il y a une raison plus particulière ?
Oui, parce que ça a baigné aussi mon adolescence, et j'aime beaucoup ce chanteur qui vraiment portait un message de solidarité, que ce soit avec la nature ou avec les êtres humains, et c'est un visionnaire déjà.
They used to be lost. Oil waste wasted on the oceans and upon our seas, fish full of mercury. Oh, oh, mercy, mercy me. Our friends ain't what they used to be. God's mother, radiation underground and in the sky. Animals and birds who live nearby.
C'était Marvin Gaye, Mercy Mercy. C'est toujours un plaisir d'entendre cette chanson. Et c'est la suite de notre émission de Cause à Effet sur France Culture, consacrée aujourd'hui au Brésil de Bolsonaro, le nouvel ordre face aux gardiens de la terre-mère, ces peuples autochtones. Et nous sommes avec Simon Roger, rédacteur en chef des pages Planète Science du journal Le Monde, Sabah Ramani, journaliste et anthropologue et auteur aussi du livre Parole des peuples racines, paru chez Actes Sud. Et puis Martine Droulers, géographe, directrice de recherche émérite au CNRS et auteur avec Céline Brogio du livre Le Brésil, paru aux Presses universitaires de France. Et puis je rappelle qu'en seconde partie d'émission, c'est Marie Sabot qui nous rejoindra pour parler du festival musical Wheel of Green qui se tiendra les 1er et 2 juin prochains dans le bois de Vincennes. Mais tout de suite, notre revue d'info environnement. Et quelques nouvelles glanées sur ce front de l'environnement. Tout d'abord, une cartographie mondiale des symbioses microbiennes et des arbres révèle leur rôle clé dans la régulation du climat. Selon le CIRAD, qui a pris part à cette étude menée par l'Initiative pour la biodiversité des forêts mondiales, si les émissions de carbone se poursuivent d'ici 2070, 10% des champignons ectomycorhiziens des arbres auront disparu, ce qui se traduirait alors par des émissions de CO2 plus importantes, c'est à lire sur le site du CIRAD. Autre nouvelle, au moins 654 entreprises en Europe ne respectent pas le règlement REACH et utilisent des substances chimiques potentiellement dangereuses pour la santé et l'environnement. Ce règlement, qui existe depuis 2007, oblige les industriels à fournir des informations sur la toxicité, l'écotoxicité, le devenir dans l'environnement par exemple, afin d'évaluer la dangerosité de leurs produits. Sur les 654 entreprises différentes, l'Allemagne en compte 169, l'Angleterre 80, les Pays-Bas 68, la France 56, l'Italie 49, l'Espagne 42 et la Belgique 38. C'est à lire sur le site du monde.fr, l'article de Stéphane Mandard. Qui remporte la palme du moins de notre sélection? La contamination de terrain de jeu pour enfants en Italie par des pesticides provenant de vignes et de vergers de pommiers. C'est dans le sud Tyrol et vous pouvez découvrir cette histoire sur le site de Génération Future. Et puis le plus de la semaine revient au T-Campus, le campus de la transition écologique et sociale qui s'est tenu à Forges en Seine-et-Marne pendant 2 mois et qui a rassemblé des étudiants, des chercheurs, des enseignants, des professionnels pour répondre aux revendications des étudiants d'être formés aux enjeux écologiques, économiques et humains. Bilan et liens à retrouver sur notre site en attendant une suite de l'aventure.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Considérée comme le poumon de la planète, l'Amazonie est aussi une terre meurtrière. Serait-elle devenue le tombeau des écologistes ? En moyenne, près de 50 militants sont exécutés chaque année au Brésil. Un triste record du monde.
Le monde ne peut pas s'arrêter de tourner à cause des écologistes. Ils ne devraient pas être aussi radicaux. Les écologistes sont des fils de médecins, d'ingénieurs, d'avocats. Ils ne connaissent rien à la campagne, mais ils sont bien contents de manger nos produits. La vérité, c'est qu'ils n'ont aucune idée de notre réalité.
Sinvao a bien voulu évoquer la question des assassinats, mais plus discrètement, dans ses pâturages. Selon lui, dans la région, il est facile de faire appel à un tueur à gages, et chaque vie humaine a son prix.
Mais un leader ou un écologiste, comme Dorothy Stang par exemple, ça vaut combien ?
Icône des petits paysans, elle aussi assassinée en 2005 par des tueurs à gages, à la solde de grands propriétaires terriens.
Quelqu'un comme Dorothy, c'est 10 000 ou 20 000 euros.
Au ministère de l'Agriculture, Jair Bolsonaro a placé l'un de ses proches, Luis Naban Garcia. Connu pour sa proximité avec des milices armées de propriétaires terriens.
Il existe un proverbe ici. Toute action provoque une réaction. Et malheureusement, on a quelques assassinats qui arrivent. Vous croyez que Dorothy Stang était une sainte ? Non, c'était une agitatrice. Et moi, si je dois faire mon choix entre croire des propriétaires qui travaillent et qui portent ce pays sur leurs épaules et une agitatrice, moi je fais le choix de ceux qui produisent, un secteur qui fait la grandeur de notre patrie, de notre nation.
Et c'était un reportage diffusé dans Complément d'enquête le 20 mai dernier. Oui, ce Brésil, 50 écologistes tués chaque année. On entendait l'interview d'un agriculteur qui avouait avoir beaucoup déboisé et qui expliquait ses méthodes. Simon Roger, Sabah Ramani, Martine Droulers, une réaction peut-être. Et on posera aussi la question de savoir, est-ce que l'Europe, d'autres pays ou les Nations Unies ont les moyens aussi d'agir au Brésil?
Juste une courte réaction sur la question des assassinats, qui est malheureusement une question récurrente, je crois, au Brésil. Il y a aussi la figure de Chico Mendes, donc le leader amazonien assassiné en 89. Et je fais juste cette remarque, parce que pour le coup, il y a un institut Chico Mendes qui a été d'ailleurs un peu mis à mal par le nouveau ministère de l'Environnement, et le ministre de l'Environnement, Ricardo Salles, lui-même confessait, ce qui me semble totalement délirant, ne pas connaître l'existence de ce leader amazonien. Donc il y a un vrai déni, en tout cas je crois qu'il y a un vrai problème à ce niveau-là aussi.
Et je crois que l'IBAMA aussi, l'Institut brésilien de l'environnement et des ressources naturelles, a également été mis à mal, me semble-t-il.
Oui, il y a d'autres assassinats aussi dont on ne parle pas, qui sont moins médiatisés, qui se font dans l'ombre, des assassinats de population qui existent depuis plusieurs années, et des témoignages directs, notamment on peut voir dans plusieurs documentaires, il y en a un qui s'appelle Terra Libre, où on entend une femme qui parle de l'assassinat de son père et qui a vu sous ses yeux l'assassinat d'un enfant de 4 ans écrasé par les machines et sans pitié. Donc ce sont des gens qui n'ont pas de voix entendues à cette échelle internationale. Donc il faut vraiment s'interroger sur cette impunité. Et si l'opinion internationale et éventuellement les gouvernements pouvaient faire pression à ce niveau-là, peut-être que ça serait moins dramatique pour les populations locales, et là, on assassine sans pitié, quoi.
Martine Droulers, on parle aussi des échanges entre l'Europe et le Mercosur, hein, parce que je parlais aussi des solutions peut-être et des façons de sensibiliser. Quelles sont selon vous les solutions, s'il y en a?
Les solutions, c'est, vous m'en demandez beaucoup là. Pour reprendre les histoires des assassinats, les assassinats en milieu rural sont fréquents depuis assez longtemps. Des colons face aux grands propriétaires, et maintenant les écologistes qui sont un peu dans les points de mire de ces grands propriétaires, ou de ceux qui veulent faire absolument de l'agriculture sur des terres protégées. Bon, ce que peut faire l'Europe sur ce sujet, donner des grandes directives, indiquer des outils de travail pour justement progresser dans ces histoires de zonage, et juridique aussi, un appui juridique pour dans les procès qui sont faits contre les propriétaires terriens, les choses comme ça, parce que la machine juridique au Brésil elle a été mise beaucoup, enfin on a beaucoup parlé sur la chute de Lula et la mise à pied de Dilma aussi, et on voit comment cet appareil juridique est quand même un petit peu bancal, si on peut dire. Donc
peu fiable, c'est ce que vous dites?
Assez difficile, c'est-à-dire ils avancent sur certains secteurs et ils en laissent d'autres complètement. Et il y a, je crois, 700 000 prisonniers dans les prisons brésiliennes. Donc les prisons débordent de tous côtés, ils ne savent plus quoi faire. Donc là aussi, il y a toute une politique de répression qui doit être étudiée et calculée. Et je pense que la coopération avec l'Europe, ça ne passe pas que par les achats de soja, mais aussi par des coopérations avec professeurs d'université, bon ça moi j'en ai fait beaucoup, juridiques, de sciences humaines. Et là justement c'est assez grave, puisque Bolsonaro veut supprimer une bonne partie des formations de sciences humaines dans les universités publiques.
Et a aussi prévu de revoir le contenu des
enseignements,
des manuels scolaires. Oui. Sabah Ramani.
Oui, c'est difficile parce que d'un côté, il y a des personnes au sein de l'Europe qui ont envie de changer, je ne suis pas économiste, mais de changer de mode d'échange par rapport au marché, peut-être exiger que les produits soient plus équitables, écologiques, mais ce qu'on n'est pas capable de faire vraiment encore chez nous, est-ce qu'on est capable de le demander ailleurs, mais d'être plus exigeant sur la qualité des produits et en même temps... Ça, c'est le volet politique et européen. Au niveau des citoyens, comme je le disais tout à l'heure, il ne faut pas négliger l'action de chaque personne, de son pouvoir de consommation par rapport à cette influence-là.
Merci à tous les trois. Vous restez avec nous. Il y a une seconde partie extrêmement intéressante, le Wheel of Green, si c'est un rendez-vous que vous avez mis dans vos tablettes. En tout cas, merci Sabah Ramani. Je rappelle le titre de votre livre « Parole des peuples racines » paru chez Actes Sud. Et on retrouve bien sûr tous les articles concernant ce sujet sur lemonde.fr et sur le site de l'émission, bien sûr. Martine Droulers, votre Que sais-je avec Céline Brogio, le Brésil. Et puis, je précise aussi qu'il y a un très beau film à voir en ce moment au cinéma, « Le chant de la forêt », une immersion totale au cœur de la tribu indienne Crao, dans le village de Pedra Branca, situé à 1000 km au nord de Brasilia, est véritablement avec cette question des deux cultures, des confrontations, et puis il nous interpelle aussi sur notre rythme de vie. Nous avons perdu la patience du monde, c'est leur message. Et un dernier conseil, le livre de Joelma Leitao, Super Aliment, édité chez Akinome, des recettes amérindiennes et leurs bénéfices sur la santé.
We love green.
We love green.
We love green.
We love green.
We love blue.
We love green.
Can we have a sing along together?
If you're having a good time, can I get a me go?
We Love Green, en partenariat avec Le Monde, des concerts, des rencontres, des conférences, le temps d'un week-end, les premiers 2 juin prochains, en plein bois de Vincennes. Bonjour Marie Sabou.
Bonjour.
Vous êtes directrice de ce festival musical qui existe depuis 2011. Vous êtes à l'origine de ce festival engagé sur le plan de l'environnement, on peut le dire?
Oui, tout à fait. On a mis en place ça petit à petit au long d'un grand chemin, tout à fait.
Je précise que vous avez une formation en droit et en communication, mais est-ce que il y a comme ça des racines ou une enfance peut-être qui vous a sensibilisé d'emblée à ce terrain?
Oui, c'est assez multiple, hein, comme tout un chacun. Moi, je viens du milieu du spectacle, ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans ce milieu-là, donc on parle de travailler autour de l'éphémère, c'est-à-dire de monter un événement parti de rien, de créer un moment particulier de rassemblement, de célébration, de rencontre de beaucoup de personnalités différentes. Et pendant, je dirais, une quinzaine d'années, je l'ai souvent fait indoor, c'est-à-dire que ce soit des concerts, des grands événements ou au Grand Palais ou au Palais de Tokyo ou en province ou pour les Jeux Olympiques pour lesquels j'ai travaillé, etc. Chaque fois, c'était dans des conditions où on était assez encadré, je dirais, avec des contraintes du lieu qu'il était offert à nous. Là, on parlait de faire un événement qui était un peu hors sol, c'est-à-dire de faire quelque chose dans un lieu où on doit amener tout son écosystème énergétique au... circuit des déchets, proposer une proposition culinaire à 80 000 personnes là où on en est. Donc on crée notre petite ville et en créant cette petite ville, on se confronte effectivement à une certaine échelle à ce que se confrontent des villes plus grandes qui doivent faire circuler des festivaliers à notre échelle. Donc on est à un point de vue technique, juridique, sanitaire, confronté à ce genre de problème. Donc quand on est passé dans ce côté, je dirais, d'un grand parc parisien comme le parc de Bagatelle et maintenant comme un grand bois parisien comme le bois de Vincennes, qui sont tous les deux Charte ISO 14001, etc., il était essentiel de fournir et de penser à un événement qui soit juste moderne, c'est-à-dire ancré dans les problématiques actuelles, essayer de repenser un petit peu notre métier de producteur de spectacle. Et donc déjà, là, on parlait de, on va dire, ce qui est le hardware, ce qui est un peu derrière le backstage.
En sachant qu'en 2011, c'était pas forcément le cas pour tout le monde. Aujourd'hui, ça dit beaucoup, et notamment depuis la rentrée, avec ce qui s'est passé, cette vague citoyenne. Mais en 2011, l'environnement n'était pas forcément évident pour tout le monde.
Non, effectivement, si on se retourne un tout petit peu, on a eu, je dirais, des doutes, des questions sur notre façon de faire, qui s'est améliorée au petit à petit, je dirais, améliorée dans la transparence pour qu'on puisse vraiment être dans une gestion assez précise et où on a pu le faire savoir. Moi, après, donc vous indiquez par rapport à un parcours personnel. Moi, je viens du sud de la France. Je viens d'une famille, je dirais, de vignerons. Et donc, j'ai vu la transformation de cette région avec plutôt le passage d'une agriculture, on va dire, assez autour du vin, d'un produit assez sacré, très spécifique, à l'arrivée des machines à vendanger, l'arrivée des grands pesticides sur les vignobles, une région qui a basculé en une quarantaine d'années.
C'est quelle région précisément ?
C'est Languedoc-Roussillon, on va dire, au sens large, puisque j'ai beaucoup d'amis qui sont dans ce secteur-là encore. Et puis j'ai grandi aussi dans une grande ville nucléaire, qui est la ville de Marcoule, enfin à côté de l'usine de Marcoule, donc qui était l'usine de ma région. Et voilà, donc on va pas rentrer dans les détails, mais vous imaginez que...
Oui, ça a pu vous interpeller malgré tout.
Ça m'a interpellé, puisque donc beaucoup de conséquences, de choses, de façon de vivre, de ces usines qui ont nourri un bassin entier. Voilà, donc beaucoup de choses m'ont questionnée, j'ai rencontré pas mal de gens et tout ça a forgé différentes choses.
Alors, festival 100% éco-responsable, comment est-ce que vous arrivez à ça ?
On a pas mal voyagé, on a vu beaucoup de choses en Scandinavie, en Allemagne, en Angleterre évidemment, et on a été inspiré par des petits, des moyens, des grands festivals, et on a trouvé des solutions techniques et des façons de gérer de la restauration de l'énergie qui nous ont beaucoup inspirés. Donc comment on arrive à ça ? Cette année, on est assez fiers, et ça n'a pas toujours été le cas, de pouvoir avoir embarqué des prestataires uniquement français en termes d'énergie. Donc on va tester à peu près toutes les énergies possibles renouvelables, donc des biocarburants, deux types de biocarburants différents, huile alimentaire recyclée et biocarburant de colza. On essaie de faire un soutien à nos agriculteurs français. Du solaire, deux types de solaire avec différentes générations de panneaux solaires. Un groupe électrogène à hydrogène à biomasse. Donc c'est la première fois qu'on le teste en France. On a aussi toute une solution de problématique de vaisselle, c'est-à-dire qu'on va nourrir 80 000 festivaliers, donc toute notre vaisselle est compostable et compostée, et le compost est normé, donc ce compost devient une valeur, cette valeur elle peut être vendue, donc on est dans l'économie circulaire. L'eau est gratuite sur le festival, donc du coup on peut éviter les bouteilles d'eau du début du montage jusqu'à la fin du démontage. On a tout un sujet de gourdes, de systématique, et maintenant on l'a passé aux artistes, le festival compense ses émissions, on a un partenariat avec Jane Goodall. On a mis un budget assez conséquent pour qu'elle puisse planter 80 000 arbres dans ses réserves naturelles. Et puis évidemment, ça c'est la partie production, mais après il y a la partie sensibilisation, c'est-à-dire que beaucoup
avec des pépinières, alors c'est
avec
ça,
des
c'est
pépinières,
la nouveauté de cette
avec des
année.
Conférences, avec des films et cette scène de conférence qu'on a démarré dans un petit tipi à 50 et maintenant on passe sur une vraie scène avec une approche du public qui va être un petit peu enthousiaste et qui va poser beaucoup de questions. Enfin, on a envie de mélanger, comme notre programmation est très large, assez éclectique. Donc on parle d'artistes qui vont voir des musiciens très différents. Donc cette mixité du festival nous intéresse et on a envie que peut-être des rencontres se passent devant ces scènes de conférences et des choses s'échangent. C'est vraiment le but de ce festival.
Ce que vous dites, c'est que finalement, ces artistes-là, ils viennent pas uniquement pour chanter, pour jouer leur musique et partager avec ce public très jeune qui attend et qui vient effectivement avec beaucoup d'effervescence pour voir ces scènes, la programmation multiculturelle et cosmopolite. Mais est-ce que ces artistes, vous les sélectionnez aussi pour leur engagement ?
Ah, c'est très difficile comme question, parce que on va pas se cacher que les artistes actuellement, il est assez compliqué de les amener sur ces questions-là. Ou alors ce sont un peu toujours les mêmes, nous les connaissons tous. Donc je pense que toutes les patrons d'ONG vous le diront, essayez de faire basculer les artistes dans ce message, c'est un long chemin.
Et même si certains bougent. Sont déjà très
voilà,
impliqués.
Voilà, le chemin bouge, c'est-à-dire entre il y a 10 ans et maintenant, on commence. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer d'embarquer le milieu du rap, enfin toute la musique urbaine, tout le rap etc. pour pouvoir essayer de faire passer des messages à toute une génération qui est un peu désespérée, qui est dans une espèce de nihilisme, qui n'est pas celui dont on a besoin actuellement. Donc convaincre des gens qui sont déjà convaincus, qui sont déjà engagés, c'est pas le projet du festival. On a envie d'essayer de faire passer des choses beaucoup plus loin.
Et donc à vos côtés, Simon Roger, qui est embarqué sur ce festival finalement. Alors Simon, racontez-nous comment le monde s'est impliqué.
Le monde planète sera dans le tipi.
C'est ça.
Voilà, du festival. Grand,
sur la scène, vous avez préparé votre guitare, non ? Même pas ?
Non, mais nous, c'est une première pour nous. C'est la première fois que le monde est associé pour la partie donc débat, donc le think tank, le nom que Marie Sabot et son équipe a donné à cette partie débat, donc qui accompagne le festival depuis le début.
Alors, think tank, nos auditeurs vous voudront certainement la traduction en français.
Groupe de réflexion.
Ouais. Il faut que le groupe soit large, en tout cas, pour que ça marche.
Enfin, groupe de réflexion.
Ouais. Alors, groupe de réflexion, certes, mais nous, on fait le pari. Marie disait à l'instant qu'on parlait de cette jeunesse peut-être un peu désespérée. Nous, on fait le pari déjà que les jeunes, puisque c'est le public majoritaire du festival Wheel of Green, aura envie de se mettre sous la dent, pas seulement des concerts pendant tout le week-end, mais aussi des débats qui sont très, très riches et très éclectiques. On a fait le choix d'inviter des gens qui viennent de tout près de chez nous ou de l'étranger aussi. Il y a par exemple une militante canadienne qui vient du Nunavik, c'est le nord du Québec, qui va nous raconter son rapport avec sa culture inuite. Et on reviendra à un sujet qu'on évoquait en début d'émission.
Et c'est Sheila Watt-Cloutier.
Sheila Watt-Cloutier. On parlait tout à l'heure de prédation, de prélèvement. Et donc, elle va nous raconter sa culture, son combat pour défendre sa culture et la planète, sachant que les deux choses sont liées. Pardon, je reviens à une autre idée forte de ce débat cette année. On était parti autour d'un mot qui a double sens, et c'est pour ça qu'on va en jouer pendant tout le festival, qui est « ça débloque ». Donc ça débloque, la planète ne tourne pas rond, mais ça débloque, ça veut dire aussi qu'on peut bouger les lignes. Et quelqu'un comme Sheila Watt-Cloutier va pas juste... Enfin bon, je dis ça parce que pour le coup, on a eu l'occasion de discuter un peu avec elle avant le festival du 1er de juin. Va pas juste faire le constat de cette population et de cette région un peu en péril qui est celle du nord du Canada, mais aussi elle a des idées, elle a des initiatives. L'idée par exemple qui semble peut-être un peu saugrenue mais qui est très très importante, elle demande une reconnaissance du droit au froid, c'est le nom de son bouquin, et le droit au froid c'est tout simplement le droit des populations de chasser, d'élever leurs enfants, le droit de vivre sur leur terre. Donc on n'est pas juste dans un constat un peu froid et désespérant de cette planète qui va de mal en pis, mais aussi de l'idée de vouloir dresser des initiatives, des perspectives, et voir que les choses peuvent avancer aussi. Et cette même jeunesse dont on parle un peu régulièrement, nous médias, parce qu'il se trouve qu'il y a un mouvement de mobilisation de la jeunesse pour le climat cette fois-ci.
Très fort.
Et assez récurrent.
Et à l'échelle internationale.
Tous les vendredis. Pour le coup, on aura aussi une table ronde sur cette génération climat qui se met en marche, en tout cas qui commence à émerger et à prendre différents visages. On connaît le visage de Greta Thunberg, cette jeune suédoise. On va découvrir le visage d'Hilda Flavia Nakabuye, qui est une jeune ougandaise qui a 23 ans et qui sera sur le plateau de Love Green et qui nous racontera comment, dans un pays comme l'Ouganda, qui est un pays pauvre, un pays corrompu, un pays où il est difficile de s'engager, de faire la politique, peut-être encore plus quand on est une femme, comment elle arrive à essayer de mobiliser les étudiants sur son campus de Kampala.
Il faut préciser d'ailleurs que l'Ouganda est victime de glissements de terrain, de tempêtes, et qui ont mis à mal les cultures ces derniers temps. Donc tout ça en rapport avec ce réchauffement climatique.
L'idée, c'est vraiment de faire écho, en tout cas on va s'efforcer de faire écho à les débats qu'on a tous les jours, enfin, jeunes ou moins jeunes. Hein, Sheila Watt-Cloutier a 63 ans, je crois. Hilda en a 23. Le public sera un public jeune qui sera Willow of Green. Voilà, donc c'est de faire écho un peu au sujet de société qui nous concerne de près ou de loin. Donc effectivement, il y a ces questions de climat qui prennent une grosse partie de l'espace médiatique, et j'ai envie de dire, d'une certaine manière, tant mieux, mais il faut pas non plus parler que de ça. On parlera aussi de transition écologique. Marie Sabot parlait de transition énergétique, en tout cas des modes énergétiques pour le festival. Il y a aussi la transition écologique au sens large. Donc là, on est dans un dossier politique. Un maire viendra nous raconter ce qu'il fait avec les limites de l'exercice sur son territoire.
Damien Carême, de Grande-Sainte.
Autre sujet qui est un sujet qui monte, nous semble-t-il, dans les médias, et là encore à juste titre, la question de qu'est-ce qu'on peut faire sur le plan du terrain, pas seulement du terrain au niveau des collectivités locales, mais aussi du terrain juridique. De plus en plus d'actions en justice sont menées sur le sujet du climat, sur le sujet de la biodiversité, et on essaiera aussi de faire écho à ces questions-là.
Quand on voit les noms, effectivement, des personnes qui bougent beaucoup sur le terrain environnemental, François Veillerette, de Génération Future, Cyril Dion, à qui vous accordez une carte blanche, Marie Sabot, finalement, ces cercles de réflexion, ça va se passer comment? Alors, il y aura les spectacles, il y aura les concerts, et puis, est-ce que c'est en même temps ou à d'autres moments? Comment vous avez imaginé le dispositif?
Oui, il y a maintenant 5 scènes sur le festival, toutes avec, je dirais, des mises en scène assez différentes. Donc, on a une grande scène assez classique, une autre qui est sous un chapiteau parce qu'on a des lives plutôt électroniques ou hip-hop qui sont plutôt délicats et on a envie de les voir un petit peu dans l'obscurité. On a une scène jeune talent et on a une scène conférence qui est donc une scène transparence dans une clairière. C'est cette scène dont on parle avec des gradins, on va dire un petit auvent dessus. On a une capacité, je dirais... on a environ bien 1000 personnes qui peuvent venir devant, et dans cette scène-là, on a une programmation qui va de 13h, ouverture du festival, avec un démarrage avec un grand film, jusqu'à 20h. Donc cet après-midi-là, elle est rythmée par... parfois un peu d'humour, parfois quelques entretiens un petit peu corrosifs avec quelques youtubeurs, des points plus économiques. On va essayer de le rythmer et je pense que d'année en année, c'est un exercice qui est assez, inédit. C'est-à-dire qu'on n'a pas, nous, beaucoup d'événements sur lesquels nous, on peut s'appuyer. Donc, on est à la recherche de cette écriture, en fait, de cet espace. Ce que je peux dire, en tous les cas, c'est le retour des intervenants. On a reçu des gens très larges. On a reçu de Jérémy Rifkin à Olafur Eliasson. On a reçu des gens dans différentes années qui nous ont fait des retours assez enthousiastes. J'en parlais avec Célia Blouel, qui est l'adjointe au maire au développement durable l'année dernière. Elle était étonnée par la précision des questions. Au moment des questions-réponses, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de conférences, qui est habitué à des auditoriums avec des gens assez précis. Et elle était étonnée de la précision, donc du coup de l'écoute. en face.
Et ça veut dire que c'est le public jeune qui vient là, ou alors c'est plutôt un autre public que vous drainez par ces rencontres, finalement?
Écoutez, je crois que c'est un mélange. Faut nous donner, je dirais, le moral dans le bureau. Parfois, on imprime un petit peu, vous savez, des messages, des commentaires qu'on reçoit. Et quand on a des festivaliers, on voit qu'ils ont fait ce parcours et qu'ils ont retenu un restaurant, un concert, une conférence. Donc, je pense que ce public vraiment traverse le festival avec cette curiosité. On a un public qui est jeune, certes, mais on a aussi un public qui est très familial. C'est-à-dire qu'on voit, comparé à d'autres festivals parisiens qui sont très générationnels, vraiment 18-24, on a, nous, un public qui est plutôt, je dirais, qui va jusqu'à 45-50 ans, avec un public qui a 25-35 ans, très majoritairement, et on a aussi beaucoup d'ados. C'est-à-dire que on a un billet teenagers, on avait 15 000 ados l'année dernière, qui viennent souvent avec leurs parents, dont c'est parfois le premier concert où ils partagent. Cette année, on va à Rika Badu, qui est une grande dame du jazz et de la soul, mais en même temps, au même moment, on va avoir quelqu'un qui a une tête d'affiche pour du rap très, très jeune. Donc, je pense que les familles discutent là-dessus et parfois se retrouvent sur le think tank. Donc, on a plusieurs générations sur le think tank. Encore une fois, donc je vous en parlais, c'est ça, c'est ces questions qui vont peut-être se poser en famille, on espère qu'il y a des petits bouts comme ça de d'inspiration qui vont partir après ce festival ou des choses qu'on aura vues. Donc
finalement, le festival peut se transformer en laboratoire d'expérience, Marie Sabot, parce que cette année quand même a été marquée par notre affaire à tous, l'affaire du siècle. On est prêt, donc les youtubeurs qui sont impliqués, les jeunes qui manifestent aussi pour l'environnement. Est-ce que potentiellement le festival peut-être montrer qu'il se passe là et avec, hein, les rencontres? Est-ce que vous pensez qu'il va être différent juste parce que l'année a été différente?
Écoutez, on vous le dira après, mais on l'espère en tous les cas, parce que tous les gens dont vous venez de parler seront sur le festival. Ce sont des gens qui nous inspirent, parce que nous, on est là pour les mettre en lumière, mais ce sont des gens qui portent cette action au quotidien, tous les jours, comme l'équipe de Simon Roger aussi au Monde Planète, hein, parce qu'ils ils ont travaillé avec nous, mais ils ont un journal à boucler tous les jours sur ces sujets-là, donc ils sont un peu au cœur de l'actualité. Donc nous, on essaye de mettre un gros point fort, surtout très grand public, parce que c'est ça notre mission en tous les cas, de faire émerger ces questions-là qui ne soient pas réservées ou à une élite ou à des gens, encore une fois, très pointus, mais de pouvoir questionner tout le monde et partir avec cela.
Simon Roger?
Non, je ne sais pas si c'est une année différente. En tout cas, c'est une année riche. Nous, on le vit tous les jours au journal.
Une année bascule, une année, voilà.
Donc,
peut-être.
L'une des difficultés qu'on a eues, mais aussi qui est une sorte de chance d'une certaine manière, c'est la difficulté d'arriver à trouver les formats et surtout de composer les tables rondes, qui ne seront pas forcément des tables rondes d'ailleurs. Ça peut être des tables rondes, ça peut être des débats de personnes où on donne la parole à quelqu'un qu'on met en avant. Mais pour le coup, il y avait une richesse des intervenants et des thématiques qui est vraiment très très large. Et il a fallu faire le tri dans tout ça, entre les questions de changement climatique, de pollution, la question du plastique, la question du gaspillage, la question finalement de nos modes de vie, qui est quand même sans doute la question cruciale, la question de la biodiversité. On a vraiment malheureusement l'embarras du choix.
Et donc ces citoyens qui sont les avocats de la nature, qui peuvent accélérer le processus sans que l'on se passe des échelons supérieurs, les élus, les entrepreneurs. Vous les avez sollicités d'ailleurs, les élus?
Écoutez,
le ministre, président de la République.
Écoutez, on a vu justement la demande du ministère de venir visiter le festival la veille, pendant le montage. Ce matin, on discute.
Vous nous rendrez compte peut-être de tout ça à la fin du festival. Marie Sabot, merci à vous, merci à Simon Roger. Bien, bon vent à ce festival 2019, Wheel of Green, avec Le Monde en partenaire cette année, donc les 1er et 2 juin prochains, au Bois de Vincennes. Toutes les informations, vous les retrouvez sur le site de l'émission, bien sûr, biographie, les liens, la revue de Web Environnement, les plus les moins de la semaine, sur donc franceculture.fr, rubrique de cause à effet, téléchargement, réécoute de l'émission à votre disposition, comme d'habitude. Et puis, vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, hashtag DCA Effet, ou sur notre page Facebook. Dimanche prochain, nous nous intéresserons aux journalistes enquêteurs, spécialistes de l'environnement, et nous serons avec Stéphane Foucard, Martin Boudot et Hervé Kempf. Et puis vous restez bien à l'écoute de France Culture, bien sûr, c'est la suite de vos programmes, avec Être et Savoir et Louise Touré.